J'aimerais parler sur votre destinée est dans la main de Dieu. Dans Genèse chapitre 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il en est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Nous connaissons bien l'histoire et la destinée de Joseph. Et ce que je voulais dire en introduction, c'est que notre destinée n'est pas entre la main des hommes, mais elle est entre la main de Dieu. Il y a un verset d'ailleurs d'un psaume qui le dit, c'est le psaume 31, verset 16. David dit « Mes destinées sont dans ta main ». Donc pour nous c'est pareil, notre destinée sont dans la main de Dieu. « Et délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs ». Donc notre destinée n'est pas entre les mains d'un médecin ou d'un avocat, ou d'un banquier, elle est entre les mains de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Joseph, qui avait une destinée sur sa vie, parce que Dieu avait un plan pour lui. Mais remarquez bien que vous pouvez avoir une destinée, mais en tout cas, dans le cas de Joseph, ses frères ont rejeté la destinée de Dieu sur sa vie. Dans un premier temps, il y avait un appel qui était vrai, il a vraiment eu des songes et des visions, et pourtant, ses frères ne croyaient pas en lui. Donc ce n'est pas incompatible, vous pouvez très bien avoir eu reçu de la part de Dieu une vision, un appel, une direction, et les autres autour de vous ne reconnaissent pas encore, ne le voient pas encore. Alors ce n'est pas contradictoire parce que Dieu va utiliser des détours en fait dans la vie de Joseph pour l'amener là où il veut, et on peut répartir sa vie en trois grandes parties. La première grande partie de la vie de Joseph, c'est le temps des révélations divines. On trouve ça au début de son histoire dans le chapitre 37 de la Genèse. Il a 17 ans, il aime Dieu de tout son cœur, mais ses frères tenaient des mauvais propos contre son père. Alors Joseph rapportait à son père tout le mal qu'on disait d'eux. Tout le mal qu'on disait d'eux. D'autres versions disent leur dénigrement. Donc les frères de Joseph parlaient mal, ils parlaient mal contre Joseph, ils parlaient mal contre leur père, contre leur mère, ils avaient des mauvais propos. Et ça, c'est aussi un enseignement pour nous, parce qu'on peut être croyant, mais avoir une langue mauvaise. Et ça, c'est une arme redoutable qui peut détruire. Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et donc, nous savons qu'avec la langue, nous pouvons bénir, encourager, édifier, mais avec la même langue, comme les frères de Joseph. Eh bien, on peut dire du mal, on peut critiquer, on peut juger, avoir des mauvais propos. Eh bien, cette partie-là, il faut l'enlever de notre vie, parce que la langue, c'est comme un feu. Mais Proverbe 12, 18 dit que la langue des sages apporte la guérison. Et c'est ça qu'il nous faut, nous, c'est apporter la guérison et la paix avec notre langue. Alors, les frères de Joseph étaient bien des croyants, connaissaient Dieu, ils croyaient en Dieu, mais ils n'avaient pas réglé le problème de leur langue, et ils parlaient à tort et à travers. Ils savaient bien que c'était mauvais, mais voyez, quand on laisse la nature, la chair, dominer, bien c'est le péché qui va dominer dans votre vie. Et à force de laisser leurs paroles mauvaises jaillir sans lutter, sans peut-être se corriger, se repentir, eh bien finalement, ça a dominé leur vie et ils sont devenus des gens de critique. Alors notre langue va révéler l'état de notre cœur. Et Jacob, qui aimait beaucoup Joseph, qui était très souple avec lui dans l'éducation, qui lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs, donc il était préféré parmi ses frères, Ça, ce n'est pas très bon, parce que ça va attiser la haine de ses frères. Et parallèlement à cette affection de Jacob pour lui, parce que certainement qu'il voyait en lui quelqu'un qui aimait Dieu davantage que ses autres frères, parce que ses autres frères, on voit bien que par leur comportement, ils étaient assez éloignés de Dieu. Mais on voit chez Joseph un amour pour Dieu qui se révèle dans sa droiture, dans son, justement dans ses paroles qui étaient saines. Et Joseph, lui, est le seul des enfants de Jacob à recevoir des visions, des songes extraordinaires. La première de ces grandes visions, c'est d'abord qu'il va lier, il se voit lier des gerbes dans les champs. Et en fait, sa gerbe va être supérieure à toutes les autres gerbes. Les autres gerbes vont se prosterner devant lui. Et on comprend que sa gerbe représente lui-même et que les autres gerbes, c'est ses frères qui vont se prosterner devant lui. Et il a un deuxième songe. Alors quand il raconte ses songes, ça suscite un peu l'incompréhension de ses frères. Mais l'autre songe, c'est le soleil, la lune et 11 étoiles qu'il voit. Et le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent devant lui. Et à nouveau, le soleil et la lune représentent son père et sa mère adoptive, puisque sa mère biologique est décédée. Et puis les 11 étoiles, ça représente les 11 frères de Joseph qui, à nouveau, s'humilient devant sa grandeur. Alors évidemment, quand il raconte ce songe, en plus c'est l'avant-dernier de la famille, ben, il est assez méprisé, assez incompris. Et son songe, qui vient vraiment de Dieu, n'est pas reçu, n'est pas accepté par sa famille. Pourtant, ça vient vraiment de Dieu. Donc, est-ce qu'il a parlé trop tôt? Est-ce qu'il aurait dû garder ça dans son cœur jusqu'à la réalisation? Voilà, en tout cas, il l'a livré tel qu'il l'a reçu et ça n'a pas été accepté. Donc, il est rejeté. Personne autour de lui ne croit en lui. Personne n'accepte qu'un jour, il va dominer effectivement sur ses frères et même sur ses parents. Et Joseph ne le sait pas encore, mais ce songe qu'il a reçu, il l'a eu très tôt, il avait 17 ans. Eh bien, il va y avoir 22 ans qui vont passer avant l'accomplissement de ce songe. 22 ans. Il ne le sait pas encore, mais cette vision qu'il a reçue va bien s'accomplir, mais dans un temps éloigné. Et ça, il y a des choses qu'on ne sait pas avec Dieu, c'est le temps de Dieu. Parce que Dieu utilise le temps pour nous travailler, donc on peut très bien avoir reçu une promesse, une parole, un songe, mais entre la promesse ou le songe et la réalisation, il y a un temps qui appartient à Dieu et c'est lui qui détermine le temps de l'accomplissement parce que Joseph ne pourra pas forcer la chose. C'est-à-dire, il ne pourra pas accélérer le processus pour faire venir plus vite cette vérité qui est pourtant là dans son cœur qu'un jour, il sera appelé à avoir une position d'autorité. Mais il ne pourra pas devancer le temps de Dieu. Donc il y a le temps de la révélation, c'est le premier point, c'est le temps de la révélation, la première partie de sa vie, il a les révélations de Dieu sur sa vie, mais il n'est pas encore dans le temps de la concrétisation ou de l'application, ça sera un autre temps. Donc premier temps, les révélations, deuxième temps, donc c'est la deuxième partie de sa vie, c'est maintenant l'épreuve, des belles promesses, il est fidèle à Dieu, il aime le Seigneur et il va être propulsé dans un temps d'épreuve incroyable. Jacob envoie Joseph vers ses frères pour prendre des nouvelles. Et Jacob ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il voit Joseph pendant les 22 prochaines années. Il ne va plus le voir. Il ne le sait pas parce que là, il va y avoir une épreuve. Joseph va être victime d'un complot. Il va être victime du complot de ses propres frères contre lui. Et lorsque les frères de Joseph le voient arriver de loin, ils le méprisent. Tant c'est leur frère, ils devraient l'aimer. Mais non. Et il parle entre eux et il dit, mais on va faire un complot et on va le tuer. Alors il le jette dans une citerne et ils sont certains que ses songes ainsi ne s'accompliront jamais. Et c'est la preuve pour eux que Dieu n'avait pas parlé par lui. Et c'est là où on voit que dans cette famille, même si c'est des croyants, il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Vous voyez, 1 Corinthiens 3:1, Paul en parle dans l'Église. Pour moi, frères, on pourrait dire frères et sœurs, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc c'est ça que nous devons être dans l'Église, des hommes, des femmes spirituels qui aiment Dieu, un petit peu comme Joseph, mais comme à des hommes charnels, à des enfants en Christ. Alors le problème des chrétiens charnels, c'est qu'ils sont vraiment attachés aux choses de la terre et qu'ils avancent peu dans les choses de l'esprit, dans les choses de Dieu, parce que, justement, ils sont dans la comparaison, ils sont dans la critique, ils disent à Dieu « Pourquoi lui et pas moi ?» Ils n'ont pas encore compris comment Dieu fonctionne. Alors il dit « Je vous ai donné du lait », c'est-à-dire une nourriture très élémentaire, très simplifiée. Donc la parole de Dieu, c'est ça le lait. Non de la nourriture solide, c'est-à-dire un enseignement plus approfondi, c'est ce qu'on doit viser quand même. Mais vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Voilà le problème que Paul met le doigt dessus, c'est que même dans l'Église, et déjà l'Église ici c'est Corinthe, ben, il y avait une partie des chrétiens qui étaient spirituels, qui aimaient Dieu un petit peu comme Joseph, qui avaient donc une avancée dans l'esprit, qui avaient des paroles de l'esprit, des révélations, des dons spirituels. Et puis une autre partie que Paul ne peut même pas enseigner à un niveau d'une nourriture très poussée, parce qu'en fait, il rejette cet enseignement comme pas de Dieu, parce que c'est trop élevé pour eux, ils sont charnels. Et quand on est charnel, on ne comprend pas l'enseignement spirituel. On est à côté du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est exactement la situation des frères de Joseph. Ils étaient charnels. Le plan de Dieu, ils ne le veulent pas, ils ne le comprennent pas. Et les visions de Joseph, ils les rejettent. Donc voilà, Paul trouve la même problématique en son temps. C'est la problématique encore aujourd'hui. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Et vous retrouvez chez les frères de Joseph la jalousie, vous retrouvez les disputes, vous retrouvez en fait cet état d'esprit de la chair qui domine dans leur vie. Alors quand la chair domine dans notre vie, on fait les mauvais choix et on prend des mauvaises décisions qui nous éloignent de Dieu. Les Corinthiens étaient divisés entre eux, certains étaient pour Paul, d'autres pour Apollos. Donc on voit que la chair faisait son œuvre dans les chrétiens charnels et ça créait des divisions. Mais notre combat à nous, il est spirituel, c'est pourquoi il nous faut devenir des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour pouvoir combattre dans l'Esprit et faire l'œuvre de Dieu. Si nous restons charnels, si nous restons limités dans notre compréhension, ben nous n'arriverons jamais à vivre les choses de Dieu. Alors, je reviens à Joseph, puisque parmi ses frères, en tout cas, il y en a un qui s'appelait Ruben. Ruben, c'était le frère aîné. Donc un petit peu, on va dire, le chef des autres frères. Et lui, Ruben, avait l'intention de sauver Joseph. Dans Genèse 37, verset 22, Ruben leur dit « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Donc parmi les frères, il y en avait un qui se démarquait, c'était Ruben. Et regardez ce qu'il est dit de Ruben, il avait le dessein ou le projet de le délivrer de leur main, c'est-à-dire la main de ses frères, pour le faire retourner vers son père. C'est le seul qui a une attitude différente. Donc on voit que même parmi ses frères qui étaient quand même globalement charnels, il y en a un qui avait une position intermédiaire, il ne voulait pas faire mourir Joseph, il avait l'intention de l'arracher à la main de ses propres frères pour l'amener vers son père. Il avait une bonne attitude. Mais là où j'attire votre attention, c'est que la destinée de Joseph ne reposait pas sur Ruben. Elle n'est pas entre les mains de Ruben, même si c'est le frère aîné, même s'il a une certaine autorité. La vie de Joseph est entre les mains de Dieu. Parce que tout ce que Ruben va essayer de faire ne va pas aboutir. Et c'est là où on peut être déçu des hommes, mais notre destinée n'est pas entre la main des hommes, elle est entre la main de Dieu. Et si Joseph avait compté sur Ruben pour s'en sortir, eh bien il aurait été franchement déçu, parce que Ruben n'a pas réussi à l'aider. Alors des personnes voudront parfois vous aider, mais malgré leurs efforts, un peu comme Ruben avait bien l'intention de l'aider, il a fait tout ce qu'il a pu pour aider son frère, mais finalement, il n'a pas réussi. Et Jérémie 17, verset 5, dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se détourne, qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est l'homme qui se confie en l'homme. Et Joseph ne devait pas se confier en Ruben. Joseph se confiait en Dieu. Et il y a un autre verset au Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Mes destinées sont dans ta main. Je me confie en Dieu pour mon avenir et dont l'Éternel est l'espérance. Alors pour nous ce soir, la leçon, c'est de réaliser que nos destinées ne sont pas entre les mains des gens, mais elles sont entre les mains de Dieu. Et si les gens font défaut, c'est pas grave, parce que Dieu a un autre plan. Lui, il va susciter d'autres personnes et il arrivera à nous faire amener là où il veut. Et lorsque Joseph arrive, ses frères le voient de loin, ils font le plan, ils le dépouillent de sa tunique, ils le jettent dans la citerne. Et justement, Ruben, qui voulait l'aider et le sauver, était absent à un moment donné. Et un autre frère, qui s'appelle Judas, propose de vendre Joseph à une caravane de Madianites qui passe. Et Ruben n'est même pas là pour s'interposer et empêcher ça. Et donc, Joseph est vendu comme esclave. Mais en fait, même si Ruben n'a rien pu faire, c'est quand même un échec, mais néanmoins, Dieu veille sur Joseph. Ses frères voulaient le tuer, mais ils n'ont pas pu le faire. Joseph a été gardé dans la main de Dieu. On a le même exemple avec Paul. À un moment donné, c'est dit dans les Actes des Apôtres que 40 Juifs se sont associés en faisant serment des imprécations qu'ils ne mangeraient plus et ne boiraient plus avant d'avoir tué Paul. Mais la vie de Paul n'était pas livrée à ces hommes, la vie de Paul était entre les mains de Dieu. C'est pourquoi ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas pu atteindre Paul parce que Dieu ne l'a pas permis. C'est Jean qui dit dans Jean 5, 18 que celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Dieu le protège. Donc Joseph se retrouve en Égypte malgré lui. En tout cas, il a été vendu sur le marché aux esclaves puisque les Madianites l'ont vendu. Et un chef qui s'appelle Potiphar, un très haut placé, voit cet esclave et il voit une opportunité pour l'avoir à son service. Et on voit que Dieu a tout dirigé, puisque Dieu est avec Joseph, malgré qu'il se retrouve esclave de Potiphar. C'est écrit dans Genèse 39, verset 2. Alors ça, c'est intéressant pour nous, parce qu'on peut être dans des grandes difficultés, on peut être même vendu, trahi par ses frères, vendu comme esclave, mais regardez le verset 2. L'Éternel fut avec lui. Avec qui ? Avec Joseph. Il est quand même esclave en Égypte. Il est quand même trahi par ses frères, vendu comme esclave. Mais ça n'empêche pas que l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Alors on voit que Joseph ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien. Sa vie est livrée comme cela, d'une manière totalement injuste. Et en fait, malgré tout cela, on voit que la main de Dieu le conduit à être dans un endroit où il est béni, où il va avoir de la prospérité, où il va réussir. Alors peut-être vous traversez des moments difficiles et vous demandez, mais est-ce que Dieu est avec moi ? Oui, Dieu est avec nous dans les moments difficiles, dans les vents contraires, dans l'opposition. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous appartenez à Dieu, alors Dieu ne vous a pas abandonné. Il est avec vous dans l'épreuve. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas des situations présentes, ça dépend de Dieu qui est fidèle et qui tient toujours ses promesses. Alors chez Potiphar, il y a une belle accalmie dans sa vie, c'est au verset 4 et 5 du chapitre 39. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, donc c'est Potiphar, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison. Il lui confia tout ce qu'il possédait. Donc on voit que Joseph finalement, qui se retrouve esclave bas de gamme, petit à petit, il gagne la confiance de son maître et se retrouve déjà à un niveau de responsabilité, jusqu'à se retrouver maître, juste après Potiphar, c'était lui le maître de la maison. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Joseph est constant, il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur quand tout va bien, il aime le Seigneur quand tout va mal. Ça nous parle de la fidélité à Dieu, de continuer à venir servir le Seigneur, à écouter la parole de Dieu. Des fois, je discute avec des frères et sœurs, ils me disent « Ah, ça ne va pas très bien, alors je ne vais pas au culte. » Mais justement, si ça ne va pas très bien, on vient se ressourcer dans la présence de Dieu. Oui. Joseph était dans cette dynamique de se dire « Ce n'est pas la situation qui va m'empêcher, ce n'est pas mes frères qui m'ont trahi qui vont m'empêcher. Je reste en communion avec Dieu, je vais continuer à adorer mon Dieu. » C'est une décision à prendre qui ne dépend pas des circonstances, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait froid, je vais quand même à la rencontre de Dieu, j'ai pris des résolutions, parce que Dieu a la première place dans la vie de Joseph, et pour nous, Dieu doit avoir la première place dans notre vie pour pouvoir le servir. Alors, on voit, encore une fois, que la destinée de Joseph n'est pas entre les mains de Potiphar, bien que Potiphar se croit le maître de Joseph. En réalité, Joseph se confie en Dieu, il ne se confie pas en Potiphar. Et il a raison de se confier en Dieu parce que les choses vont tourner. Et si vous vous confiez en l'homme, peut-être l'homme ou la personne qui vous a sorti du bourbier, les choses peuvent tourner. Cette personne peut se retourner contre vous. C'est ce qui va se passer pour Joseph. Potiphar, qu'il a élevé dans sa maison, va changer d'attitude. Puisque la femme de Potiphar va tenter Joseph pour le séduire. Alors c'est dans le verset 11 et 12 du chapitre 39. Un jour qu'il était entré, donc c'est toujours Joseph, dans la maison pour son ouvrage, qui avait là aucun des gens de la maison, elle, c'est la femme de Potiphar, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi » et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Alors ça, c'est une épreuve, c'est à nouveau le test de l'intégrité de Joseph, parce qu'il est arrivé maintenant à un certain point, son maître lui fait confiance, il est sorti de cet état d'esclave, on va dire, de premier rang pour être un esclave, maintenant plutôt un dirigeant en fait. Il a des esclaves sous ses ordres lui-même. Et donc là, l'ennemi vient le tenter. Est-ce que maintenant tu veux ce confort, tu veux rester là et accepter le compromis, ou est-ce que tu es prêt à tout perdre? Et là, tout perdre, ça voulait dire la prison, ça voulait dire peut-être même la mort. Eh bien, Joseph est catégorique, il est clair, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Potiphar m'a sorti, il m'a établi sur sa maison. Il prend le risque de tout perdre pour sa fidélité à Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph nous donne le chemin à suivre. Il dit, ma destinée est entre les mains de Dieu. Ma destinée n'est pas entre les mains de Potiphar. Ma destinée est entre les mains de Dieu. C'est vrai que Potiphar m'a sorti de cet état d'esclavage et m'a établi, mais ce n'est pas lui que je sers définitivement, c'est Dieu que je sers. Et Potiphar, qui était riche, qui était puissant, alors qu'il apprend que Joseph, en tout cas accusé par sa femme, a essayé de coucher avec lui, puisqu'elle a retourné la chose en accusant Joseph d'avoir essayé de coucher avec elle, eh bien, il va se retourner contre Joseph. Mais Joseph a bien fait d'être intègre. Il a payé le prix, il a été accusé d'avoir porté atteinte à l'épouse de Potiphar. Il a été donc destitué de sa position de chef dans la maison de Potiphar. Il s'est retrouvé plus bas que terre, puisque même pas esclave, on l'a jeté directement en prison. Donc en fait, il était encore en dessous de la case d'esclave quand il est arrivé en Égypte. Il s'est retrouvé en prison en Égypte. Le texte dit qu'il avait les pieds lié et mis dans les fers. Ça, c'est dans le psaume 105, verset 18. Et donc, si on réfléchit humainement, on peut se dire, mais quel intérêt j'ai à obéir à Dieu? J'ai été fidèle à Dieu, j'ai fait sa volonté, je sais que mes destinées sont dans sa main, et pourtant, ce que je vis me dit le contraire des promesses de Dieu. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on peut être tenté d'abandonner, mais Joseph n'a pas eu cette attitude. Il a conservé la foi en son Dieu dans la prison, verset Genèse 39, verset 21. Donc on se retrouve maintenant plus bas qu'esclave, c'est-à-dire prisonnier lié dans la prison. Mais regardez, on peut être vraiment plus bas que terre, rejeté, destitué. Et le verset dit, l'Éternel fut avec Joseph. Là, on est maintenant dans la prison. L'Éternel fut avec Joseph, c'est une constante. Quand vous êtes en communion avec Dieu, il est avec vous quand tout va bien, il est avec vous quand tout va mal. C'est une constante. Il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur des yeux du chef de la prison. Et là encore, l'Éternel est avec lui. Il va changer le mal en bien, il va permettre que ses conditions s'améliorent. Et Joseph a compris que même ici, là, dans cette prison, que là, il n'y a plus vraiment d'espoir, bah, sa destinée n'est même pas entre les mains de ce chef de la prison qui le met en faveur. Là, voilà, ça y est, il commence à utiliser Joseph comme un serviteur dans la prison. Mais il a compris que encore les choses peuvent tourner. Et il ne met pas sa confiance dans les hommes, mais il met sa confiance en Dieu. Donc il sait très bien que cet homme, malgré la faveur qu'il a, il sait très bien que cet homme, le chef de la prison, ne peut pas le faire sortir de prison. C'est pourquoi Joseph se tourne vers Dieu qui est au-dessus. Alors qu'il est au plus bas, des pensées peut-être qui lui disent que voilà, c'est la fin, tu vas finir ta vie en prison, tu vis tout le contraire des promesses de Dieu. Et c'est là, dans ce lieu obscur, que l'Éternel, on va voir qu'il va l'élever au verset 23, Genèse 39, 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Et donc on voit qu'il y a des moments où tout peut être contre nous, il n'y a plus rien à espérer, on est plus bas que terre. Dieu ne nous a pas abandonnés et il a été mis en fait dans cette prison-là et ce n'était pas un hasard. Parce que quelquefois, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on croit que c'est le lot du hasard. Mais non, le texte dit au verset 20 que c'était le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Ça, c'est un petit détail qui va s'avérer important parce que le roi va envoyer des prisonniers dans cette prison-là. Et justement, où est Joseph? Donc Joseph ne le sait pas encore, mais ce lieu-là va devenir pour lui la sortie pour être auprès de Pharaon. Ce sera le lieu de sa délivrance. Alors justement, Pharaon envoie des prisonniers à lui. C'est un échanson, c'est-à-dire quelqu'un qui sert le vin dans la coupe du roi. Et cet échanson a une vision, un songe pendant la nuit. Il voit un cep avec trois gros sarments et il presse les grains de raisin dans la coupe du Pharaon. Mais puis, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et justement, Joseph interprète les songes. Et il lui explique, dans 3 jours, tu sortiras de la prison et tu seras rétabli dans ton service. Et il lui dit, souviens-toi de moi. Vous voyez, c'est Genèse 40, verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur et fais-moi sortir de cette maison. Donc, il a eu l'interprétation. Il la donne. Alors, l'autre qui était panetier, c'est-à-dire qu'il servait le pain à la table du Pharaon. Il a eu aussi un songe, il a vu 3 corbeilles sur sa tête de pain blanc et les oiseaux du ciel qui venaient manger ce pain. Alors il s'attend aussi à avoir une interprétation positive, mais Joseph lui dit non, pour toi les 3 corbeilles c'est 3 jours, mais dans 3 jours ta tête sera élevée, tu seras pendu et les oiseaux du ciel viendront te dévorer. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Pour l'un, l'échanson a été rétabli. Pour l'autre, il a été exécuté. Mais si Joseph avait mis son espoir dans cet homme, il aurait été déçu. Parce que la Bible dit qu'à peine l'échanson est sorti de prison, alors que Joseph lui avait dit « Souviens-toi de moi », le texte dit que l'échanson l'oublia. L'échanson l'oublia. Ça veut dire que si vous mettez votre confiance dans les hommes, vous serez toujours déçus. Même ceux à qui vous avez fait du bien, vous les avez aidés, ils vous ont fait des promesses, ils n'arrivent pas à tenir leurs promesses et vous serez déçus. C'est pourquoi Joseph a cette constante, c'est qu'il va se confier en Dieu parce que sa destinée est entre les mains de Dieu. Donc les années vont passer, encore 2 années vont passer en prison. Et puis, au temps marqué, c'est maintenant le troisième temps dans la vie de Joseph, c'est l'accomplissement. Il arrive un temps où le pharaon a fait un songe que personne ne comprend. Il a vu 7 vaches grasses qui sortaient du fleuve et qui ont dévoré 7 vaches maigres. Et puis ensuite, il voit 7 épis gras sur une même tige qui vont engloutir 7 épis maigres. Et donc, le roi ne comprend pas les songes. Et personne n'arrive à interpréter les songes. Alors les chansons se rappellent là, parce que Dieu lui met en mémoire, attends, il y a un homme qui interprète les songes dans la prison et Dieu lui remet en mémoire. Eh bien, à partir de là, les choses s'accélèrent. Donc, ça faisait 13 ans, en fait, depuis le jour où elle a été vendue comme esclave. Et ces deux dernières années en prison, ça fait un total de 13 années où il a été donc chez Potiphar et en prison. Et en une seule journée, il est passé de la prison à la cour de Pharaon pour interpréter le songe. Donc là, il y a une... Quand la main de Dieu est là, vous voyez, vous sortez de la situation. Et il va passer donc devant Pharaon, il va interpréter le songe, il va annoncer les 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Et donc, comme il a interprété le songe du roi, il va se retrouver à gouverner l'Égypte du jour au lendemain. Il va recevoir l'anneau du roi, revêtu de fin lin. Et c'est là, lorsque la famine éclate, que les frères de Joseph n'ont plus rien à manger et ils vont aller en Égypte chercher de la nourriture. Et à ce moment-là, Joseph va se révéler comme le frère. Il n'arrivait pas à le croire parce que pour eux, il était mort, il avait disparu comme esclave. Et Genèse 45,8, vous voyez, parce que chez Joseph, c'est toujours une constante, il voit encore que ses destinées sont entre les mains de Dieu. « Ce n'est donc pas vous, » donc il s'adresse à ses frères, « vous, mes frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Et Joseph, en fait, tout au long de sa vie, il a réalisé, « c'est pas les hommes, c'est pas vous, mais c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui a ouvert la porte, c'est Dieu qui a conduit. » Maintenant, il y a 39 ans, il a 39 ans, donc ça fait 22 ans qu'il est parti de son pays et il arrive en fait à vivre le songe qu'il avait eu 22 ans plus tôt. Donc il voit ses frères se prosterner devant lui et il se voit en position d'autorité. Donc voilà, on a dans la vie de Joseph cette réalité que notre destinée n'est pas entre la main des hommes. Vous serez souvent déçus, ils vont peut-être vous trahir, vous jeter en prison, vous mettre de côté. Peut-être vous allez faire du bien à quelqu'un qui va se retourner contre vous. Mais votre destinée, définitivement, n'est pas entre leurs mains. Elle est entre la main de Dieu. Et quoi qu'il arrive, le Seigneur nous amène au bon endroit. C'est peut-être votre patron qui est irritable, qui vous veut du mal, ou un collègue qui veut vous exclure. Peu importe. En fait, Dieu utilise toutes ces choses pour nous amener là où il veut. Et nous devons lui faire confiance. Alors, on ne le comprend pas tout de suite. Ça semble être le contraire de ce que Dieu nous a dit. Et pourtant, Dieu utilise des fois des détours. J'ai remarqué que pour aller d'un endroit à un autre, nous, on utilisera la ligne droite, mais Dieu nous fait passer des fois par des chemins de détours. Mais on arrive quand même au point final. Et c'est ça qui est important, parce qu'il y a un verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu prépare les choses pour nous faire arriver à son plan. On va prier un instant. Merci pour ta parole qui est certaine, qui est la vérité, qui est comme un phare dans la nuit qui nous éclaire, Seigneur, et qui nous montre que notre destinée n'est pas entre la main des hommes, mais c'est bien toi qui as prévu ton plan comme tu l'as fait pour Joseph. Eh bien, Seigneur, tu accompliras ton plan pour chacune de nos vies. Même si aujourd'hui nous vivons tout le contraire, même si toutes les portes sont fermées, même si tout semble bloqué, ô Seigneur, pour toi, rien n'est impossible. Et tu peux susciter encore un événement, une situation, une personne qui va permettre une avancée, Seigneur. Nous te recommandons chacune de nos vies en te disant, Seigneur, oui à toi toute la gloire, parce que ta volonté est bonne et parfaite. Et nous voulons garder cette assurance que tu es avec nous quand tout va bien, mais tu es aussi avec nous quand tout va mal. Comme tu étais avec Joseph, alors qu'il était vendu comme esclave, alors que tu étais avec Joseph chez Potiphar, alors que tu étais même avec Joseph dans la prison, alors que tu n'abandonnes jamais aucun de tes enfants, quand bien même tous nous abandonnent, toi tu ne nous abandonnes pas. Nous remettons toutes choses entre tes mains pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.